Livre deuxième. L'ourque en mer. Chapitre 1. Les lois qui sont hors de l'homme. La tempête de neige est une des choses inconnues de la mer. C'est le plus obscur des météores. Obscur dans tous les sens du mot. C'est un mélange de brouillard et de tourmente, et de nos jours, on ne se rend pas bien compte encore de ce phénomène. De là, beaucoup de désastres. On veut tout expliquer par le vent et par le froid. Or, dans l'air, il y a une force qui n'est pas le vent. Et dans l'eau, il y a une force qui n'est pas le flot. Cette force, la même dans l'air et dans l'eau, c'est l'effluve. L'air et l'eau sont deux masses liquides, à peu près identiques, et rentrant l'une dans l'autre par la condensation et la dilatation, tellement que respirer c'est boire, l'effluve seul est fluide. Le vent et le flot ne sont que des poussées. L'effluve est un courant. Le vent est visible par les nuées. Le flot est visible par l'écume. L'effluve est invisible. De temps en temps, pourtant, il dit « Je suis là ». Son « Je suis là », c'est un coup de tonnerre. La tempête de neige offre un problème analogue au brouillard sec. Si l'éclaircissement de la Kalina des Espagnols et du Kobar des Éthiopiens est possible, à coup sûr, cet éclaircissement se fera par l'observation attentive de l'effluve magnétique. Sans l'effluve, une foule de faits demeurent énigmatiques. À la rigueur, les changements de vitesse du vent, se modifiant dans la tempête de 3 pieds par seconde à 220 pieds, motiverait les variantes de la vague allant de 3 pouces, mer calme, à 36 pieds, mer furieuse. À la rigueur, l'horizontalité des souffles, même en bourrasque, fait comprendre comment une lame de 30 pieds de haut peut avoir 1500 pieds de long. Mais pourquoi les vagues du Pacifique sont-elles 4 fois plus hautes près de l'Amérique que près de l'Asie, c'est-à-dire plus hautes à l'ouest qu'à l'est? Pourquoi est-ce le contraire dans l'Atlantique? Pourquoi, sous l'équateur, est-ce le milieu de la mer qui est le plus haut? D'où viennent ces déplacements de la tumeur de l'océan? C'est ce que l'effluve magnétique, combiné avec la rotation terrestre et l'attraction sidérale, peut seul expliquer. Ne faut-il pas cette complication mystérieuse pour rendre raison d'une oscillation du vent allant, par exemple, par l'ouest, du sud-est au nord-est, puis revenant brusquement, par le même grand tour, du nord-est au sud-est, de façon à faire en 36 heures un prodigieux circuit de 560 degrés, ce qui fut le prodrome de la tempête de neige du 19 mars 1867. Les vagues de tempête de l'Australie atteignent jusqu'à 80 pieds de hauteur. Cela tient au voisinage du pôle. La tourmente en ces latitudes résulte moins du bouleversement des souffles que de la continuité des décharges électriques sous-marines. En l'année 1866, le câble transatlantique a été régulièrement troublé dans sa fonction 2 heures sur 24, de midi à 2 heures, par une sorte de fièvre intermittente. De certaines compositions et décompositions de force produisent les phénomènes et s'imposent au calcul du marin à peine de naufrage. Le jour où la navigation, qui est une routine, deviendra une mathématique, le jour où l'on cherchera à savoir, par exemple, pourquoi, dans nos régions, les vents chauds viennent parfois du nord et les vents froids du midi, le jour où l'on comprendra que les décroissances de température sont proportionnées aux profondeurs océaniques, le jour où l'on aura présent à l'esprit que le globe est un gros aimant polarisé dans l'immensité avec deux axes, un axe de rotation et un axe d'effluve, s'entrecoupant au centre de la Terre, et que les pôles magnétiques tournent autour des pôles géographiques, quand ceux qui risquent leur vie voudront la risquer scientifiquement, quand on naviguera sur de l'instabilité étudiée, quand le capitaine sera un météorologue, quand le pilote sera un chimiste, alors bien des catastrophes seront évitées. La mer est magnétique autant qu'aquatique. Un océan de force flotte, inconnu, dans l'océan des flots. À vos lots, pourrait-on dire. Ne voir dans la mer qu'une masse d'eau, c'est ne pas voir la mer. La mer est un va-et-vient de fluide autant qu'un flux et reflux de liquide. Les attractions la compliquent plus encore peut-être que les ouragans. L'adhésion moléculaire, manifestée, entre autres phénomènes, par l'attraction capillaire, microscopique pour nous, participe dans l'océan de la grandeur des étendues. Et l'onde des effluves, tantôt aide, tantôt contrarie l'onde des airs et l'onde des eaux. Qui ignore la loi électrique, ignore la loi hydraulique, car l'une pénètre l'autre. Pas d'étude plus ardue, il est vrai, ni plus obscure. Elle touche à l'empirisme comme l'astronomie touche à l'astrologie. Sans cette étude pourtant, pas de navigation. Cela dit, passons. Un des composés les plus redoutables de la mer, c'est la tourmente de neige. La tourmente de neige est surtout magnétique. Le pôle la produit comme il produit l'aurore boréale. Il est dans ce brouillard comme il est dans cette lueur. Et dans le flocon de neige, comme dans la strie de flamme, l'effluve est visible. Les tourmentes sont les crises de nerfs et les accès de délire de la mer. La mer a ses migraines. On peut assimiler les tempêtes aux maladies. Les unes sont mortelles, d'autres ne le sont point. On se tire de celle-ci et non de celle-là. La bourrasque de neige passe pour être habituellement mortelle. Jarabija, un des pilotes de Magellan, la qualifiait une nuée sortie du mauvais côté du diable. Una nube salida del malo lado del diabolo. Surcouf disait « Il y a du trousse galant dans cette tempête-là. » Les anciens navigateurs espagnols appelaient cette sorte de bourrasque la nevada au moment des flocons et la helada au moment des grêlons. Selon eux, il tombait du ciel des chauves-souris avec la neige. Les tempêtes de neige sont propres aux latitudes polaires. Pourtant, parfois, elles glissent. On pourrait presque dire elles croulent jusqu'à nos climats, tant la ruine est mêlée aux aventures de l'air. La Matutina, on l'a vu, s'était, en quittant Portland, résolument engagée dans ce grand hasard nocturne qu'une approche d'orage aggravait. Elle était entrée dans toute cette menace avec une sorte d'audace tragique. Cependant, insistons-y, l'avertissement ne lui avait point manqué. Chapitre 2. Les silhouettes du commencement fixées. Tant que l'Ourcq fut dans le golfe de Portland, il y eut peu de mer. La lame était presque étale. Quel que fût le brun de l'océan, il faisait encore clair dans le ciel. La brise mordait peu sur le bâtiment. L'Ourcq longeait le plus possible la falaise qui lui était un bon paravent. On était 10 sur la petite felouque biscayenne. 3 hommes d'équipage et 7 passagers, dont 2 femmes. À la lumière de la pleine mer, car dans le crépuscule, le large refait le jour, toutes les figures étaient maintenant visibles et nettes. On ne se cachait plus d'ailleurs. On ne se gênait plus. Chacun reprenait sa liberté d'allure, jetait son cri, montrait son visage, le départ étant une délivrance. La bigarrure du groupe éclatait. Les femmes étaient sans âge. La vie errante fait des vieillesses précoces, et l'indigence est une ride. L'une était une basquaise des ports secs. L'autre, la femme au gros rosaire, était une Irlandaise. Elles avaient l'air indifférentes et misérables. Elles s'étaient, en entrant, accroupies l'une près de l'autre sur des coffres au pied du mât. Elles causaient. L'Irlandais et le Basque, nous l'avons dit, sont deux langues parentes. La Basquaise avait les cheveux parfumés d'oignons et de basilic. Le patron de l'Ourcq était Basque, Guy Puzocan. Un matelot était Basque du versant nord des Pyrénées. L'autre était Basque du versant sud, c'est-à-dire de la même nation, quoique le premier fût français et le second espagnol. Les Basques ne reconnaissent point la patrie officielle. Mi madre c'est la ma montagne. Ma mère s'appelle la montagne, disait l'arriéro Zalareus. Des 5 hommes accompagnant les 2 femmes, 1 était français languedocien, 1 était français provençal, 1 était génois, 1 vieux, celui qui avait le sombrero sans 3 pipes, paraissait allemand. Le 5e, le chef, était un Basque landais de Biscarrosse. C'était lui qui, au moment où l'enfant allait entrer dans l'Ourcq, avait d'un coup de talon jeté la passerelle à la mer. Cet homme, robuste, subit, rapide, couvert, on s'en souvient, de passementeries, de pasquilles et de clinquants qui faisaient ses guenilles flamboyantes, ne pouvait tenir en place. Se penchait, se dressait, allait et venait sans cesse d'un bout du navire à l'autre, comme inquiet entre ce qu'il venait de faire et ce qui allait arriver. Ce chef de la troupe et le patron de l'Ourcq et les 2 hommes d'équipage, basques tous 4, parlaient tantôt basque, tantôt espagnol, tantôt français, ces 3 langues étant répandues sur les 2 revers des Pyrénées. Du reste, hormis les femmes, tous parlaient à peu près le français, qui était le fond de l'argot de la bande. La langue française, dès cette époque, commençait à être choisie par les peuples comme intermédiaire entre l'excès de consonnes du nord et l'excès de voyelles du midi. En Europe, le commerce parlait français. Le vol aussi. On se souvient que J.B., voleur de Londres, comprenait Cartouche. L'Ourcq, fine voilière, marchait bon train. Pourtant, 10 personnes, plus les bagages, c'était beaucoup de charges pour un si faible gabarit. Ce sauvetage d'une bande par ce navire n'impliquait pas nécessairement l'affiliation de l'équipage du navire à la bande. Il suffisait que le patron du navire fût un Vascongado et que le chef de la bande en fût un autre. S'entraider est, dans cette race, un devoir qui n'admet pas d'exception. Un Basque, nous venons de le dire, n'est ni espagnol ni français. Il est Basque. Et toujours et partout, il doit sauver un Basque. Telle est la fraternité pyrénéenne. Tout le temps que l'Ourcq fut dans le golfe, le ciel, bien que de mauvaise mine, ne parut point assez gâté pour préoccuper les fugitifs. On se sauvait, on s'échappait, on était brutalement gai. L'un riait, l'autre chantait. Ce rire était sec, mais libre. Ce chant était bas, mais insouciant. Le languedocien criait « Caougagno !» Cocagne est le comble de la satisfaction narbonnaise. C'était un demi-matelot, un naturel du village aquatique de Gruissan, sur le versant sud de la Clappe, marinier plutôt que marin, mais habitué à manœuvrer les périssoires de l'étang de Bage et à tirer sur les sables salés de Sainte-Lucie la traîne pleine de poissons. Il était de cette race qui se coiffe du bonnet rouge, fait des signes de croix compliqués à l'espagnol, boit du vin de peau de bouc, tête loutre, racle le jambon, s'agenouille pour blasphémer et implore son saint patron avec menace. « Grand saint, accorde-moi ce que je te demande ou je te jette une pierre à la tête. Ou t'es de fagumpique. » Il pouvait, au besoin, s'ajouter utilement à l'équipage. Le Provençal, dans la cambuse, attisait sous une marmite de fer un feu de tourbe et faisait la soupe. Cette soupe était une espèce de puchero, où le poisson remplaçait la viande et où le Provençal jetait des pois chiches. De petits morceaux de lard coupés carrément et des gousses de piment rouge. Concession du mangeur de bouillabaisse au mangeur d'Ola Potrida. Un des sacs de provisions, déballé, était à côté de lui. Il avait allumé, au-dessus de sa tête, une lanterne de fer à vitre de talc, oscillant à un crochet du plafond de la cambuse. À côté, à un autre crochet, se balançait l'alcyon girouette. C'était alors une croyance populaire qu'un alcyon mort, suspendu par le bec, présente toujours la poitrine au côté d'où vient le vent. Tout en faisant la soupe, le Provençal se mettait par instant dans la bouche le goulot d'une gourde et avalait un coup d'aguardiente. C'était une de ces gourdes revêtues d'osier, larges et plates, à haut rayon, qu'on se pendait au côté par une courroie et qu'on appelait alors gourde de hanche. Entre chaque gorgée, il mâchonnait un couplet d'une de ces chansons campagnardes dont le sujet est rien du tout. Un chemin creux, une haie. On voit dans la prairie, par une crevasse du buisson, l'ombre allongée d'une charrette et d'un cheval au soleil couchant, et de temps en temps, au-dessus de la haie, paraît et disparaît l'extrémité de la fourche chargée de foin. Il n'en faut pas plus pour une chanson. Un départ, selon ce qu'on a dans le cœur ou dans l'esprit, est un soulagement ou un accablement. Tous semblaient allégés, un excepté, qui était le vieux de la troupe, l'homme au chapeau sans pipe. Ce vieux, qui paraissait plutôt allemand qu'autre chose, bien qu'il eût une de ces figures à fond perdu où la nationalité s'efface, était chauve, et si grave que sa calvitie semblait une tonsure. Chaque fois qu'il passait devant la Sainte Vierge de la Proue, il soulevait son feutre, et l'on pouvait apercevoir les veines gonflées et séniles de son crâne. Une façon de grande robe usée et déchiquetée, en serge brune de Dorchester, dont il s'enveloppait, ne cachait qu'à demi son juste au corps serré, étroit, et agrafé jusqu'au collet comme une soutane. Ses deux mains tendaient à l'entrecroisement et avaient la jonction machinale de la prière habituelle. Il avait ce qu'on pourrait nommer la physionomie blême, car la physionomie est surtout un reflet, et c'est une erreur de croire que l'idée n'a pas de couleur. Cette physionomie était évidemment la surface d'un étrange état intérieur, la résultante d'un composé de contradictions allant se perdre les unes dans le bien, les autres dans le mal. Et, pour l'observateur, la révélation d'un à peu près humain pouvant tomber au-dessous du tigre ou grandir au-dessus de l'homme. Ces chaos de l'âme existent. Il y avait de l'illisible sur cette figure. Le secret y allait jusqu'à l'abstrait. On comprenait que cet homme avait connu l'avant-goût du mal, qui est le calcul, et l'arrière-goût, qui est le zéro. Dans son impassibilité, peut-être seulement apparente, étaient empreintes les deux pétrifications. La pétrification du cœur, propre au bourreau, et la pétrification de l'esprit, propre au mandarin. On pouvait affirmer, car le monstrueux a sa manière d'être complet, que tout lui était possible, même s'émouvoir. Tout savant est un peu cadavre. Cet homme était un savant. Rien qu'à le voir, on devinait cette science empreinte dans les gestes de sa personne et dans les plis de sa robe. C'était une face fossile dont le sérieux était contrarié par cette mobilité ridée du polyglotte qui va jusqu'à la grimace. Du reste, sévère. Rien d'hypocrite, mais rien de cynique. Un songeur tragique. C'était l'homme que le crime a laissé pensif. Il avait le sourcil d'un trabucaire modifié par le regard d'un archevêque. Ses rares cheveux gris étaient blancs sur les tempes. On sentait en lui le chrétien, compliqué de fatalisme turc. Des nœuds de gouttes déformaient ses doigts disséqués par la maigreur. Sa haute taille roide était ridicule. Il avait le pied marin. Il marchait lentement sur le pont, sans regarder personne, d'un air convaincu et sinistre. Ses prunelles étaient vaguement pleines de la lueur fixe d'une âme attentive aux ténèbres et sujette à des réapparitions de conscience. De temps en temps, le chef de la bande, brusque et alerte, et faisant de rapides zigzags dans le navire, venait lui parler à l'oreille. Le vieillard répondait d'un signe de tête. On eût dit l'éclair consultant la nuit. Chapitre 3. Les hommes inquiets sur la mer inquiète. Deux hommes sur le navire étaient absorbés. Ce vieillard et le patron de l'Ourcq, qu'il ne faut pas confondre avec le chef de la bande. Le patron était absorbé par la mer, le vieillard par le ciel. L'un ne quittait pas des yeux la vague, l'autre attachait sa surveillance aux nuages. La conduite de l'eau était le souci du patron. Le vieillard semblait suspecter le zénith. Il guettait les astres par toutes les ouvertures de la nuée. C'était ce moment où il fait encore jour et où quelques étoiles commencent à piquer faiblement le clair du soir. L'horizon était singulier. La brume y était diverse. Il y avait plus de brouillard sur la terre et plus de nuages sur la mer. Avant même d'être sorti de Portland Bay, le patron, préoccupé du flot, eut tout de suite une grande minutie de manœuvre. Il n'attendit pas qu'on eût décapé. Il passa en revue le trélingage et s'assura que la bridure des bas haubans était en bon état et appuyait bien les gambes de hune, précaution d'un homme qui compte faire des témérités de vitesse. L'Ourcq, c'était là son défaut, enfoncé d'une demi-vare par l'avant plus que par l'arrière. Le patron passait à chaque instant du compas de route au compas de variation, visant par les deux pinules aux objets de la côte, afin de reconnaître l'air de vent à laquelle il répondait. Ce fut d'abord une brise de bouline qui se déclara. Il n'en parut pas contrarié, bien qu'elle s'éloignât de 5 pointes du vent de la route. Il tenait lui-même la barre le plus possible, paraissant ne se fier qu'à lui pour ne perdre aucune force, l'effet du gouvernail s'entretenant par la rapidité du sillage. La différence entre le vrai rhumb et le rhumb apparent étant d'autant plus grande que le vaisseau a plus de vitesse, l'Ourcq semblait gagner vers l'origine du vent plus qu'elle ne faisait réellement. L'Ourcq n'avait pas vent large et n'allait pas au plus près, mais on ne connaît directement le vrai rhumb que lorsque l'on va vent arrière. Si l'on aperçoit dans les nuées de longues bandes qui aboutissent au même point de l'horizon, ce point est l'origine du vent. Mais ce soir-là, il y avait plusieurs vents, et l'air du rhumb était trouble. Aussi, le patron se méfiait des illusions du navire. Il gouvernait à la fois timidement et hardiment. Brassait au vent, veillait aux écarts subites, prenait garde aux lances, ne laissait pas arriver le bâtiment, observait la dérive, notait les petits chocs de la barre, avait l'œil à toutes les circonstances du mouvement, aux inégalités de vitesse, de sillage, aux folles ventes, se tenait constamment, de peur d'aventure, à quelques quarts de vent de la côte qu'il longeait, et surtout maintenait l'angle de la girouette avec la quille plus ouvert que l'angle de la voilure, le rhumb de vent indiqué par la boussole étant toujours douteux à cause de la petitesse du compas de route. Sa prunelle, imperturbablement baissée, examinait toutes les formes que prenait l'eau. Une fois pourtant, il leva les yeux vers l'espace et tâcha d'apercevoir les trois étoiles qui sont dans le baudrier d'Orion. Ces étoiles se nomment les trois mages. Et un vieux proverbe des anciens pilotes espagnols dit « Qui voit les trois mages n'est pas loin du sauveur ». Ce coup d'œil du patron au ciel coïncida avec cet aparté grommelé à l'autre bout du navire par le vieillard. « Nous ne voyons pas même la claire des gardes, ni l'astre Antarès, tout rouge qu'il est. Pas une étoile n'est distincte. » Aucun souci parmi les autres fugitifs. Toutefois, quand la première hilarité de l'évasion fut passée, il fallut bien s'apercevoir qu'on était en mer au mois de janvier et que la bise était glacée. Impossible de se loger dans la cabine, beaucoup trop étroite et d'ailleurs encombrée de bagages et de ballots. Les bagages appartenaient aux passagers et les ballots à l'équipage, car l'Ourcq n'était point un navire de plaisance et faisait la contrebande. Les passagers durent s'établir sur le pont. Résignation facile à ces nomades. Les habitudes du plein air rendent aisés aux vagabonds les arrangements de nuit. La belle étoile est de leurs amis, et le froid les aide à dormir, à mourir quelquefois. Cette nuit-là, du reste, on vient de le voir, la belle étoile était absente. Le languedocien et le génois, en attendant le souper, se pelotonnèrent près des femmes, au pied du mât, sous des prélards que les matelots leur jetèrent. Le vieux chauve resta debout à l'avant, immobile et comme insensible au froid. Le patron de l'Ourcq, de la barre où il était, fit une sorte d'appel guttural, assez semblable à l'interjection de l'oiseau qu'on appelle en Amérique l'exclamateur. À ce cri, le chef de la bande approcha et le patron lui adressa cette apostrophe « Etcheco jaunal !» Ces deux mots basques, qui signifient « laboureur de la montagne », sont, chez ces antiques cantabres, une entrée en matière solennelle et commandent l'attention. Puis, le patron montra du doigt au chef le vieillard et le dialogue continua en espagnol, peu correct du reste, étant de l'espagnol montagnard. Voici les demandes et les réponses. « Etcheo jauna que es este hombre ?»« Un hombre ?»« Que lengua sabla ?»« Todas ?»« Qué cosas sabe ?»« Todas ?»« Qual país ?» Ningun y todos. ¿Cuál Dios? Dios. ¿Cómo le llamas? El tonto. ¿Cómo dices que le llamas? El sabio. ¿En vuestra tropa qué está? ¿Está lo que está? ¿E jefe? No. Pues, ¿qué está? La alma. Laboureur de la montagne, quel est cet homme ? Un homme. Quelle langue parle-t-il ? Toutes. Quelle chose sait-il ? Toutes. Quel est son pays ? Aucun et tous. Quel est son Dieu ? Dieu. Comment le nommes-tu ? Le fou. Comment dis-tu que tu le nommes ?
Le sage.
Dans votre troupe, qu'est-ce qu'il est ?
Il est ce qu'il est.
Le chef ?
Non.
Alors, quel est-il ?
L'âme.
Le chef et le patron se séparèrent, chacun retournant à sa pensée. Et peu après, la matutina sortit du golf. Les grands balancements du large commencèrent. La mer, dans les écartements de l'écume, était d'apparence visqueuse. Les vagues, vues dans la clarté crépusculaire à profil perdu, avaient des aspects de flasques de fiel. Ça et là, une lame, flottant à plat, offrait des fêlures et des étoiles, comme une vitre où l'on a jeté des pierres. Au centre de ces étoiles, dans un trou tournoyant, tremblait une phosphorescence, assez semblable à cette réverbération féline de la lumière disparue qui est dans la prunelle des chouettes. La matutine traversa fièrement et en vaillante nageuse le redoutable frémissement du banc Chambourg. Le banc Chambourg, obstacle latent à la sortie de la rade de Portland, n'est point un barrage, c'est un amphithéâtre. Un cirque de sable sous l'eau, des gradins sculptés par les cercles de l'onde, une arène ronde et symétrique, haute comme une Jungfrau, mais noyée. Un colisée de l'océan entrevu par le plongeur dans la transparence visionnaire de l'engloutissement. C'est là le banc Chambourg. Les hydres s'y combattent, les léviathans s'y rencontrent. Il y a là, disent les légendes, au fond du gigantesque entonnoir, des cadavres de navires saisis et coulés par l'immense araignée Kraken, qu'on appelle aussi le poisson-montagne. Telle est l'effrayante ombre de la mer. Ces réalités spectrales ignorées de l'homme se manifestent à la surface par un peu de frisson. Au XIXe siècle, le banc Chambourg est en ruine. Le brise-lames récemment construit a bouleversé et tronqué à force de ressac cette haute architecture sous-marine, de même que la jetée bâtie au Croisy en 1760 et a changé d'un quart d'heure l'établissement des marais. La marée, pourtant, c'est éternel. Mais l'éternité obéit à l'homme plus qu'on ne croit. Chapitre 4. Entrée en scène d'un nuage différent des autres. Le vieux homme, que le chef de la troupe avait qualifié d'abord « le fou », puis « le sage », ne quittait plus l'avant. Depuis le passage du banc Chambourg, son attention se partageait entre le ciel et l'océan. Il baissait les yeux, puis les relevait. Ce qu'il scrutait surtout, c'était le nord-est. Le patron confia la barre à un matelot, enjamba le panneau de la fosse aux câbles, traversa le passavant et vint au gaillard de proue. Il aborda le vieillard, mais non de face. Il se tint un peu en arrière, les coudes serrés aux hanches, les mains écartées, la tête penchée sur l'épaule, l'œil ouvert, le sourcil haut, un coin des lèvres souriant, ce qui est l'attitude de la curiosité, quand elle flotte entre l'ironie et le respect. Le vieillard, soit qu'il eût l'habitude de parler quelquefois seul, soit que sentir quelqu'un derrière lui l'excitât à parler, se mit à monologuer en considérant l'étendue. Le méridien d'où l'on compte l'ascension droite est marqué dans ce siècle par 4 étoiles. La polaire, la chaise de Cassiopée, la tête d'Andromède et l'étoile d'Algénib, qui est dans Pégase. Mais aucune n'est visible. Ces paroles se succédaient automatiquement, confuses, à peu près dites, et en quelque façon sans qu'il se mêlât de les prononcer. Elles flottaient hors de sa bouche et se dissipaient. Le monologue est la fumée des feux intérieurs de l'esprit. Le patron interrompit. « Seigneur !» Le vieillard, peut-être un peu sourd en même temps que très pensif, continua. « Pas assez d'étoiles et trop de vent. Le vent quitte toujours sa route pour se jeter sur les côtes. Il s'y jette à pic. Cela tient à ce que la terre est plus chaude que la mer. L'air en est plus léger. Le vent froid et lourd de la mer se précipite sur la terre pour le remplacer. C'est pourquoi, dans le grand ciel, le vent souffle vers la terre de tous les côtés. Il importerait de faire des bordées allongées entre le parallèle estimé et le parallèle présumé. Quand la latitude observée ne diffère pas de la latitude présumée, de plus de 3 minutes sur 10 lieues et de 4 sur 20, on est en bonne route. » Le patron salua, mais le vieillard ne le vit point. Cet homme, qui portait presque une simarre d'universitaire d'Oxford ou de Göttingen, ne bougeait pas de sa posture hautaine et revêche. Il observait la mer en connaisseur des flots et des hommes. Il étudiait les vagues, mais presque comme s'il allait demander dans leur tumulte son tour de parole et leur enseigner quelque chose. Il y avait en lui du magistère et de l'augure. Il avait l'air du pédant de l'abîme. Il poursuivit son soliloque, peut-être fait, après tout, pour être écouté. On pourrait lutter si l'on avait une roue au lieu d'une barre. Par une vitesse de 4 lieues à l'heure, 30 livres d'effort sur la roue peuvent produire 300 000 livres d'effet sur la direction. Et plus encore, car il y a des cas où l'on fait faire à la trousse 2 tours de plus. Le patron salua une deuxième fois et dit « Seigneur !» L'œil du vieillard se fixa sur lui. La tête tourna sans que le corps remuât. « Appelle-moi, docteur !»« Seigneur docteur, c'est moi qui suis le patron !»« Soit !» répondit le docteur. Le docteur, nous le nommerons ainsi dorénavant, parut consentir au dialogue. « Patron, as-tu un octant anglais ?»« Non. » »« Sans octant anglais, tu ne peux prendre hauteur ni par derrière ni par devant. » « Les Basques, répliqua le patron, prenez hauteur avant qu'il y eût des Anglais. »« Méfie-toi de l'Holofée. »« Je mollis quand il le faut. »« As-tu mesuré la vitesse du navire ?»«
Oui. »«
Quand ?»«
Tout à l'heure. »«
Par quel moyen ?»« Au moyen du loche. »« As-tu eu soin d'avoir l'œil sur le bois du loche ?»«
Oui. »
Le sablier fait-il juste ces 30 secondes?
Oui.
Es-tu sûr que le sable n'a point usé le trou entre les 2 ampoulettes?
Oui.
As-tu fait la contre-épreuve du sablier par la vibration d'une balle de mousquet suspendue?
Un fil plat tiré de dessus le chanvre rouille,
sans doute. As-tu ciré le fil de peur qu'il ne s'allonge?
Oui.
As-tu fait la contre-épreuve du loche?
J'ai fait la contre-épreuve du sablier par la balle de mousquet et la contre-épreuve du loche par le boulet de canon.
Quel diamètre a ton boulet?
1 pied.
Bonne lourdeur. C'est un ancien boulet de notre vieille ourque de guerre, la casse de Pargrand.
Qui était de l'armada?
Oui. Et qui portait 600 soldats, 50 matelots et 25 canons?
Le naufrage le sait.
Comment as-tu pesé le choc de l'eau contre le boulet?
Au moyen d'un peson d'Allemagne.
As-tu tenu compte de l'impulsion du flot contre la corde portant le boulet?
Oui.
Quel est le résultat?
Le choc de l'eau a été de 170 livres.
C'est-à-dire que le navire fait alors 4 lieues de France
et 3 de Hollande.
Mais c'est seulement le surplus de la vitesse du sillage sur la vitesse de la mer.
Sans doute. Où te diriges-tu?
À une anse que je connais entre Loyola et Saint-Sébastien.
Mets-toi vite sur le parallèle du lieu de l'arrivée.
Oui, le moins d'écart possible.
Méfie-toi des vents et des courants. Les premiers excitent les seconds.
Traidores.
Traître.
Pas de mots injurieux. La mer entend. N'insulte rien. Contente-toi d'observer.
J'ai observé et j'observe. La marée est en ce moment contre le vent. Mais tout à l'heure, quand elle courra avec le vent, nous aurons du bon.
As-tu un routier?
Non, pas pour cette mer.
Alors, tu navigues à tâtons?
Point, j'ai la boussole.
La boussole est un œil, le routier est l'autre.
Un borgne voit.
Comment mesures-tu l'angle que fait la route du navire avec la quille?
J'ai mon compas de variation. Et puis, je devine.
Deviner, c'est bien. Savoir, c'est mieux.
Christophe devinait.
Colomb.
Quand il y a de la brouille et quand la rose tourne vilainement, on ne sait plus par quel bout du harnais prendre le vent. Et l'on finit par n'avoir plus ni point estimé, ni point corrigé. Un âne avec son routier vaut mieux qu'un devin avec son oracle.
Il n'y a pas encore de brouille dans la bise, et je ne vois pas de motif d'alarme.
Les navires sont des mouches dans la toile d'araignée de la mer.
Présentement, tout est en assez bon état dans la vague et dans le vent.
Un tremblement de points noirs sur le flot. Voilà les hommes sur l'océan.
Je n'augure rien de mauvais pour cette nuit.
Il peut arriver une telle bouteille à l'encre que tu aies de la peine à te tirer d'intrigue.
Jusqu'à présent, tout va bien.
L'œil du docteur se fixa sur le nord-est. Le patron continua.
Gagnons seulement le golfe de Gascogne, et je réponds de tout.
Par exemple, j'y suis chez moi. Je le tiens, mon golfe de Gascogne.
C'est une cuvette souvent bien en colère.
Mais là, je connais toutes les hauteurs d'eau et toutes les qualités de fond. Vase devant San Cipriano, coquille devant Cisarc, sable au Cap Penas, petit caillou au Bouco de Mimizan. Et je sais la couleur de tous les cailloux.
Le patron s'interrompit. Le docteur ne l'écoutait plus.
Le docteur considérait le nord-est. Il se passait sur ce visage glacial quelque chose d'extraordinaire. Toute la quantité d'effroi possible à un masque de pierre y était peinte. Sa bouche laissa échapper ce mot « à la bonne heure ». Sa prunelle, devenue tout à fait de hibou et toute ronde, s'était dilatée de stupeur en examinant un point de l'espace. Il ajouta
« C'est juste. Quant à moi, je consens. »
Le patron le regardait. Le docteur reprit, se parlant à lui-même ou parlant à quelqu'un dans l'abîme. « Je dis oui. » Il se tut. Ouvrit de plus en plus son œil avec un redoublement d'attention sur ce qu'il voyait et reprit.
« Cela vient de loin, mais cela sait ce que cela fait. »
Le segment de l'espace où plongeaient le rayon visuel et la pensée du docteur, étant opposé au couchant, était éclairé par la vaste réverbération crépusculaire presque comme par le jour. Ce segment, fort circonscrit et entouré de lambeaux de vapeurs grisâtres, était tout simplement bleu. Mais d'un bleu plus voisin du plomb que de l'azur. Le docteur, tout à fait retourné du côté de la mer et sans regarder le patron désormais, désigna de l'index ce segment aérien et dit
« Patron, vois-tu ?»«
Quoi ?»«
Cela ?»
Quoi ?
Là-bas.
Du bleu, oui. Qu'est-ce ?
Un coin du ciel.
Pour ceux qui vont au ciel, dit le docteur. Pour ceux qui vont ailleurs, c'est autre chose.
Et il souligna ces paroles d'énigme d'un effrayant regard perdu dans l'ombre. Il y eut un silence. Le patron, songeant à la double qualification donnée par le chef à cet homme, se posa en lui-même cette question. Est-ce un fou ? Est-ce un sage ? L'index, osseux et rigide du docteur, était demeuré dressé comme en arrêt vers le coin bleu trouble de l'horizon. Le patron examina ce bleu.
« En effet, grommela-t-il, ce n'est pas du ciel, c'est du nuage. »«
Nuage bleu, pire que nuage noir, » dit le docteur. Et il ajouta, « C'est le nuage de la neige. »«
La nube de la nieve, » fit le patron, comme s'il cherchait à mieux comprendre en se traduisant le mot.
« Sais-tu ce que c'est que le nuage de la neige ?» demanda le docteur.
« Non. »«
Tu le sauras tout à l'heure. »
Le patron se remit à considérer l'horizon. Tout en observant le nuage, le patron parlait entre ses dents.
« Un mois de bourrasque, un mois de pluie, janvier qui tousse et février qui pleure. Voilà tout notre hiver à nous autres Asturiens. » Notre pluie est chaude. Nous n'avons de neige que dans la montagne. Par exemple, gare à l'avalanche. L'avalanche ne connaît rien. L'avalanche, c'est la bête.
Et la trombe, c'est le monstre, dit le docteur.
Le docteur, après une pause, ajouta. La voilà qui vient. Il reprit. Plusieurs vents se mettent au travail à la fois. Un gros vent de l'ouest et un vent très lent de l'est.
Celui-là est un hypocrite, dit le patron.
La nuée bleue grandissait. Si la neige, continua le docteur, est redoutable quand elle descend de la montagne, juge de ce qu'elle est quand elle croule du pôle. Son œil était vitreux. Le nuage semblait croître sur son visage en même temps qu'à l'horizon. Il reprit avec un accent de rêverie.
« Toutes les minutes amènent l'heure. La volonté d'en haut s'en trouve. »
Le patron de nouveau se posa intérieurement ce point d'interrogation. « Est-ce un fou ?»«
Patron, » repartit le docteur, la prunelle toujours attachée sur le nuage.
« As-tu beaucoup navigué dans la Manche ?»
Le patron répondit.
« C'est aujourd'hui la première fois. »
Le docteur, que le nuage bleu absorbait, et qui, de même que l'éponge n'a qu'une capacité d'eau, n'avait qu'une capacité d'anxiété, ne fut pas à cette réponse du patron ému au-delà d'un très léger dressement d'épaule.
« Comment cela ?»
« Seigneur docteur, je ne fais habituellement que le voyage d'Irlande. Je vais de Fontarabie à Black Harbour ou à l'île Achill, qui est deux îles. Je vais parfois à Brachypoult, qui est une pointe du pays de Galles. Mais je gouverne toujours par-delà les îles Scilly. Je ne connais pas cette mer-ci. »
« C'est grave. Malheur à qui épelle l'océan. » La Manche est une mer qu'il faut lire couramment. La Manche, c'est le sphinx. Méfie-toi du fond.
Nous sommes ici dans 25 brasses.
Il faut arriver aux 55 brasses qui sont au couchant et éviter les 20 qui sont au levant.
En route, nous sonderons.
La Manche n'est pas une mer comme une autre. La marée y monte de 50 pieds dans les malines et de 25 dans les mortes eaux. Ici, le reflux n'est pas l'ebbe et l'ebbe n'est pas le jusant.
Ah, tu m'avais l'air décontenancé en effet.
Cette nuit nous sonderons.
Pour sonder, il faut s'arrêter et tu ne pourras. Pourquoi ?
Parce que le vent.
Nous essaierons.
La bourrasque est une épée au rein.
Nous sonderons, seigneur docteur.
Tu ne pourras pas seulement mettre côté à travers.
Foi en Dieu.
Prudence dans les paroles. Ne prononce pas légèrement le nom irritable.
Je sonderai, vous dis-je.
Sois modeste. Tout à l'heure, tu vas être souffleté par le vent.
Je veux dire que je tâcherai de sonder.
Le choc de l'eau empêchera le plomb de descendre et la ligne cassera.
Ah ! Tu viens dans ces parages pour la première fois.
Pour la première fois. Eh bien, en ce cas, écoute, patron. L'accent de ce mot, écoute, était si impératif que le patron salua.
Seigneur docteur, j'écoute.
Armure à bâbord et borde à tribord.
Que voulez-vous dire ?
Mets le cap à l'ouest.
Caramba !
Mets le cap à l'ouest.
Pas possible.
Comme tu voudras. Ce que je t'en dis, c'est pour les autres. Moi, j'accepte.
Mais, seigneur docteur, le cap à l'ouest.
Oui, patron.
C'est le vent debout.
Oui, patron.
C'est un tangage diabolique.
Choisis d'autres mots.
Oui, patron.
C'est le navire sur le chevalet.
Oui, patron. C'est peut-être le mât rompu.
Peut-être.
Et vous voulez que je gouverne à l'ouest ?
Oui.
Je ne puis.
En ce cas, fais ta dispute avec la mer comme tu voudras.
Il faudrait que le vent changeât.
Il ne changera pas de toute la nuit.
Pourquoi ?
Ceci est un souffle long de 1200 lieues.
Aller contre ce vent-là ? Impossible !
Le cap à l'ouest, te dis-je.
J'essaierai. Mais malgré tout, nous dévirons.
C'est le danger.
La brise nous chasse à l'est.
Ne va pas à l'est.
Pourquoi ?
Patron, sais-tu quel est aujourd'hui pour nous le nom de la mort ?
Non.
La mort s'appelle l'est.
Je gouvernerai à l'ouest.
Le docteur, cette fois, regarda le patron et le regarda avec ce regard qui appuie comme pour enfoncer une pensée dans un cerveau. Il s'était tourné tout entier vers le patron et il prononça ces paroles lentement, syllabe à syllabe. Si cette nuit, quand nous serons au milieu de la mer, nous entendons le son d'une cloche, le navire est perdu. Le patron le considéra stupéfait.
Que voulez-vous dire ?
Le docteur ne répondit pas. Son regard, un instant sorti, était maintenant rentré. Son œil était redevenu intérieur. Il ne sembla point percevoir la question étonnée du patron. Il n'était plus attentif qu'à ce qu'il écoutait en lui-même. Ses lèvres articulèrent, comme machinalement, ses quelques mots, bas comme un murmure. Le moment est venu pour les âmes noires de se laver.
Le patron fit cette moue expressive qui rapproche du nez tout le bas du visage. « C'est plutôt le fou que le sage »
grommela-t-il. Et il s'éloigna. Cependant, il mit le cap à l'ouest. Mais le vent et la mer grossissaient.